Eh bien oui, nous sommes en direct sur les ondes de Radio Coteau. Je vais vous rappeler nos fréquences. C'est 97.7, 104.5. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet www.radiocoteau.com. Il y a des jours comme ça où on est heureux. On est content de recevoir nos invités. Aujourd'hui, c'est Nadia Fiori. Nadia Fiori que nous avons déjà reçue il y a à peu près un an, je crois. Je ne sais plus.
À peu près. Ça, oui, c'est ça. Bonjour.
Ça fait longtemps, hein. Et puis, j'ai ma petite stagiaire, donc Chloé, qui est toujours avec moi. Bonjour, Chloé.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Ça s'est bien passé hier, quand même. C'était chouette.
Hein? Oui.
On fait des rencontres ici à Radio Coteau, qu'est-ce que t'en penses?
Beaucoup.
Beaucoup, hein. Alors Nadia, tu es venue me voir aujourd'hui déjà pour me parler de Artstock, puisque tu travailles au sein de cette structure depuis 2 ans, je crois, à peu près.
On pourrait novembre 2017.
Novembre 2017, elle est très précise,
il faut
Nadia.
Faire les calculs.
Très, très, très précise. Et puis, donc, on va reparler un petit peu de cette structure. Il devait y avoir un vide-grenier, mais il est annulé. Bon, on va le dire aussi. Et puis, tu nous parleras en deuxième partie d'émission de ces fameux droits culturels,
oui,
hein, qu'on a évoqués au téléphone ensemble. J'en ai compris un petit peu, mais je pense qu'il est important de communiquer sur ce sujet-là. Mais au préalable, Nadia, si tu veux bien, est-ce que tu peux me redire, me faire un petit historique peut-être de Artstock? C'est une association?
Oui.
C'est une association donc qui s'est installée du côté de Blagen.
Blagen, voilà. En 2015, mm-hmm. Ouverture en 2016.
Et le principe de cette association, enfin, le travail de cette association, c'est quoi?
Alors, Artstock, c'est une association qui récupère des décors de théâtre, opéra, musée, monde de l'événementiel, qui généralement sont voués à la destruction. Donc Artstock récupère. Et par grâce aux ateliers, en fait, peut démanteler tous ces décors-là pour les ramener à l'état de matériaux qui, par la suite, peuvent être utilisés pour diverses choses, de la création de nouveaux décors, mais ouais, également de la création de mobilier, d'aménagement.
Ça, c'est ce que vous faites, en fait.
C'est ce qu'on fait.
Ouais.
Voilà.
Et tu parles donc de décors. Ça, en préparant l'émission, tu m'as dit aussi dans le domaine de la mode, vous récupériez pas mal de décors.
Oui, oui. Ben, la mode, ce sont des vêtements, mais pour les mettre en valeur, ils organisent des défilés avec des scénographies assez extraordinaires.
C'est vrai, oui. Il y a toujours des mondes différents, des thèmes différents.
À chaque fois, oui. Ouais.
Et là, ça, vous devez récupérer pas mal de choses, non?
Là, on récupère pas mal. Bah, d'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'on a été amené à reporter le vide-grenier,
ouais,
qui devait avoir lieu d'ici 15 jours. Sauf que la semaine dernière, on a récupéré donc la scénographie d'un gros défilé. Ça a été l'équivalent de 40 semis.
Wow.
Ça prend de la place. Et même si Artstock, on a de la place,
ouais,
voilà, le temps aussi de pouvoir traiter, inventorier, ranger un petit peu tout ça, tout simplement en termes de moyens humains,
ouais,
pour pouvoir sécuriser les lieux, tout simplement, et permettre d'accueillir les publics et les différents stands. On a préféré reporter la date.
Ouais. Quand tu reçois un si gros volume, déjà, est-ce que vous pouvez récupérer tout ou il y a des choses qu'on est obligé quand même d'abandonner, de jeter?
Alors,
en règle générale, tout est réutilisé?
Plus ou moins.
Ouais, plus ou moins.
Plus ou moins. Là, avec tout ce qu'on a récupéré, il y a des éléments. On va faire des. Nous, on va prendre des bennes de bois.
Ouais.
Enfin, on va faire des bennes pour les remplir de bois. Et après, essayer de trouver des interlocuteurs s'ils peuvent les revaloriser ou pas sur des tels volumes.
Ouais.
Ça prendrait des années rien qu'à nous, là, surtout qu'on a été amené à réduire les effectifs en 2018 parce qu'on est passé par une grosse phase de restructuration pour pouvoir survivre.
Ouais, oui, oui.
Ça nous arrive, ben voilà.
Mais là, vous êtes en plein redémarrage, d'ailleurs, non?
Ouais, on redémarre. Mmh. Donc là, généralement, enfin, comme j'avais dit la dernière fois, on a peu de ce qu'on appelle déchets ultimes en économie circulaire.
Ouais.
On en a quelques-uns. Après, on essaye de les revaloriser aussi, ou tout simplement, après, ben, on passe par sur des toutes petites parties infimes. Ça nous arrive d'aller tout simplement prendre une benne
et quand tu dis que tu mets à disposition, par exemple, une benne de bois, c'est des gens qui viennent voir s'ils peuvent les récupérer pour telle chose.
Non, quand on en arrive à des bennes de bois, c'est des lithos qui ont servi à faire des châssis au moment du démontage. Ils ont été à moitié arrachés, mm-hmm, où il y avait des tissus qui étaient accrochés avec des agrafes. Là, on s'adresse plutôt à des professionnels, par exemple, qui font des granules, pour chaudière.
Ouais.
Voilà, les personnes qui utilisent les déchets de bois pour en faire une matière.
Il y a quand même de la récupération, quoi. Voilà, c'est pas.
Oui,
c'est,
on cherche. Dans tous les cas, on cherche à valoriser au maximum, ou en tout cas à faire circuler vers d'autres acteurs qui eux ont les moyens de transformation, ce que nous on ne peut pas traiter.
Alors, on a parlé de restructuration. L'association est en train de se relancer. Et en préparant l'émission, tu m'as dit que vous cherchiez déjà un technicien, je crois.
Oui.
C'est dommage que vous ne la voyez pas, elle a un sourire magnifique. Alors.
Oui, bah justement, vu que là, on a eu une augmentation de l'activité, comme on dit dans le jargon.
Ouais.
Là, on cherche à recruter une personne sur un poste de technicien polyvalent, dont la mission sera en fait de pouvoir accompagner notre salarié actuel, Alain, sur la réception, le traitement, le classement en fait et l'inventaire de tous ces matériaux-là.
Bah, ça doit prendre du temps.
Bah, ça prend du temps, puis enfin voilà, il y a des choses. Enfin, vaut mieux être à deux pour les bouger que tout seul, quand même.
Oui.
En règle générale.
Il y a la pénibilité aussi dans ce travail-là. Ouais. Il y a des choses qui sont
volumineuses. Ouais. Après, on a quelques outils quand même pour les manipuler. Mais bon, voilà, tout seul, c'est quand même long, fastidieux.
Ouais.
Et puis donc, on a été amené à se séparer de beaucoup de personnes en 2018 pour pouvoir assainir. On a assaini. L'idée, c'est quand même que ce soit un acteur économique qui puisse créer de l'emploi.
Ouais.
Donc là, c'est un poste pour commencer en CDD de carton de 3 mois.
Ouais.
Renouvelable sur un mi-temps.
En CDI, si
ça fonctionne bien.
Ça fonctionne
bien,
voilà.
Nous, on part sur cette base-là parce que vu les prévisionnels qu'on fait avec tout ce qui a été mis en place dans la restructuration, parce que ça a impliqué énormément de changements, vu le modèle économique sur lequel on part, voilà, on pense pouvoir consolider ce poste-là en mi-temps.
Tu parles de modèle économique, c'est quoi vos clients? C'est qui vos clients en fait? À qui vous vous adressez?
Alors voilà, c'est toute la difficulté de Arstock.
Ouais.
En fait, vu qu'on récupère pour revaloriser, on a deux types de clients. Les clients qui nous fournissent en matériaux matériels, et là, du coup, ce seront des théâtres, hein, opéras, des opérateurs qui créent des décors en général. Ça, c'est la première partie de nos clients à qui on propose des prestations d'enlèvement. La deuxième partie de nos clients, ou l'autre part de notre clientèle ou de notre public, je dis public aussi parce que c'est une association, deuxième partie, il y a la partie marchande, il y a la partie partenariale, enfin voilà, il y a toute la partie associative, où là c'est des structures, des personnes, des professionnels ou des collectivités qui peuvent avoir besoin soit de matériaux bruts, soit de matériaux reconstitués pour faire des travaux d'aménagement, soit des personnes qui ont des envies de création de mobilier, soit des compagnies qui elles-mêmes créent de nouvelles scénographies et qui recherchent des matériaux et des ateliers.
Est-ce qu'il peut y avoir des commandes?
Bien sûr.
Ouais.
Oui, il y a des commandes, oui, heureusement. Il peut y avoir des commandes.
Oui, mais quand je parle de commandes, des commandes bien précises, on veut tel type de décor.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous le fabriquer, peut-être?
Nous, on a déjà répondu à ce type de commandes pour des... Pour des compagnies qui voulaient tout simplement une structure de décor. Voilà, on a la fiche technique et on respecte la fiche technique. On a eu des cafés qui ouvraient ou qui réouvraient, qui voulaient refaire la déco. Voilà, on a une commande pour un bar et 40 sièges.
Ouais.
Oui, bien sûr. Et des particuliers, voilà, qui voulaient faire un aménagement dans leur salon. Ils sont passés, ils ont vu, voilà, on va faire une structure. Donc oui, bien sûr, il y a de la commande. En fait, c'est un magasin où on peut rentrer, on peut prendre du matériau brut, on peut prendre des éléments de déco, mais en fait, on peut voir aussi toute la matière première avec laquelle on va pouvoir créer soit soi-même, soit en demandant la prestation.
Alors, la difficulté, je pense, la première difficulté que vous ayez, c'est déjà d'être dans un milieu rural où la communication est difficile. Il faut que vous fassiez connaître, en fait. C'est ça qui est difficile, non, pour une structure comme la vôtre?
Alors, je pense pas que le fait qu'on soit en milieu rural soit une difficulté particulière, parce que on serait en milieu
urbain, ce serait pareil.
C'est qu'il y a tellement d'informations en métropole, il y a tellement d'acteurs divers et variés qu'on se fond dans la masse.
Ouais.
Bien que notre activité soit difficilement fondable dans la masse, parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça en France. Notre grande difficulté, c'est la le spectre de nos activités et la diversité des publics qui peuvent se sentir concernés par notre association, les prestations ou les projets qu'on porte. Et la difficulté, c'est ça, c'est de réussir à trouver un média de communication pertinent pour chacun,
ouais,
mais qui respecte quand même en fait la diversité de ce qui peut se faire. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont des communicants et qui peuvent nous donner des je sais pas, faire des brainstorming ou nous accompagner là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une vraie difficulté, au-delà de se faire identifier. Après, il y a la problématique aussi de, on n'est pas arrivé sur un terrain vierge, on est arrivé sur, dans le cadre de la revitalisation des anciennes tuileries d'Imerys à Blagen.
Oui, c'est vrai, oui.
Ce départ d'Imerys, ça a quand même créé, une petite déflagration en termes de perte d'emploi, de choc économique et social sur la région. C'était quand même, je crois, 70 postes au moment de la fermeture. Donc il y a ce terrain-là qui n'est pas neutre du tout, avec beaucoup d'attentes. Et puis il faut relever le gant, et ce n'est pas facile non plus. Donc il y a plusieurs choses. Il y a cette activité qui n'est pas très connue, la diversité de tout ce qu'on fait, sur un terrain où, en fait, on nous attend, faut vraiment relever le gant. Parce qu'un plan de revitalisation, on est installé, normalement, le contrat, on est installé pour recréer de l'activité. Mais on ne peut pas recréer l'activité que fournissait Imerys en peu de temps. D'autant que sur le site, c'est vrai que sur l'ensemble des Tuileries, on est le seul acteur présent à ce jour-là. Il n'y a pas d'autres projets qui ont vu le jour. C'est pas dit qu'il y a des projets qui sont,
ils sont en train,
en cours d'études.
C'est en cours d'études, ouais.
La mairie de Blagen travaille beaucoup là-dessus.
Sur ce sujet-là, ouais.
Tout à fait. À ce jour, pour le moment, Arstock est un peu seul. Donc c'est vrai qu'on, avec les difficultés internes à l'association qu'il y a eu lors de l'installation,
ouais.
Parce que si Arstock est arrivé en 2015-2016 à Blagen, elle a été créée en 2008.
Et d'ailleurs, au départ, il y avait quand même pas mal de salariés dans cette association-là.
Quand Arstock a ouvert à Blagen, donc elle avait déjà une plateforme en Île-de-France, donc elle avait déjà des salariés en Île-de-France. Et dans le cadre du plan de revitalisation, il y avait dans le deal de départ, il fallait créer un certain nombre de postes pour pouvoir répondre à l'appel d'offres d'Imerys à ce moment-là. Les postes ont été créés. Bon, sauf que le modèle économique n'a pas permis de les maintenir. Mais effectivement, quand Arstock a ouvert, il y avait 12 salariés entre Blagen et Triport qui étaient
C'était quoi, une erreur dans les prévisions ou c'est la...
Non, c'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses. Déjà, 12 postes, effectivement, sur une activité comme ça, dans une zone comme ça, où on n'était pas implanté, où on n'était pas attendu, avec une activité comme la nôtre, c'était pas évident. Il y avait peut-être aussi, en termes de choix de compétences, il y avait essentiellement des techniciens. Donc en termes de technique, on avait un savoir-faire assez exceptionnel, mais effectivement, peu de ce qu'on appelle de fonctions support, de la communication, du commercial, du développement.
Qui est important pour pérenniser des structures comme la vôtre. Quoi.
Monter un modèle économique, ça s'improvise pas non plus, aller démarcher, trouver les bons clients, les bons partenaires sur les bonnes prestations. Enfin voilà, on peut avoir l'idée, après il faut y aller. Donc il y a plusieurs choses qui ont fait que ça a été difficile. Après voilà, nous on a tiré des conséquences. On essaye de continuer à en tirer des leçons et on essaie de repartir sur des bases plus sobres en termes d'emploi. Et l'idée c'est pas de créer 12 postes d'un coup, c'est on va recréer des postes, les reconsolider au fur et à mesure.
On l'entend, on le sent, ça te tient à cœur quand même, cette structure.
Le projet, il est quand même assez exceptionnel.
C'est vrai.
Et encore une fois, je le dis, il faut venir sur le site pour comprendre, en fait. C'est 2500 mètres carrés de décor. C'est hallucinant. Voilà.
Chloé, tu voudrais poser une question? Non, je voyais que tu me regardais. On va se faire une petite pause musicale, Nadia.
Oui.
Est-ce que tu es contente d'être là, Nadia?
Je suis ravie.
Les Vrigles aussi. Comment on dit, les Vrigles ou les Vrigles?
Vrigles.
Merci Nadia.
Ça fait partie de ma vie, c'est gérable. J'en ai pris mon parti, entre nous c'est vivable. À ceux qui me demandent si ça va, oui bien sûr. Ma gueule je la vois pas, mais ça le fait, je vous rassure. Je l'ai de l'intérieur à défaut d'avoir l'œil rieur.
Le sourire narquois, le sourire béat, le sourire forcé, moi quand je souris, désolé si ça ne se voit pas. Le sourire complice, le sourire sympa, le sourire gêné, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être là. Le sourire gentil, le sourire débile, le sourire de biais, moi quand je souris, pardon si ça ne se voit pas beaucoup. Le sourire poli, le sourire tranquille, le sourire niais, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être avec vous.
Pas la bonne image.
Dans certains cas, ma présence crée comme un petit décalage.
Pour un anniversaire ou un mariage, c'est pas terrible.
Mon apparence austère est jugée trop souvent pénible.
Je l'ai de l'intérieur à défaut d'avoir l'œil rieur.
Le sourire d'un quoi, le sourire béat, le sourire forcé, moi quand je souris, désolé si ça ne se voit pas. Le sourire complice, le sourire sympa, le sourire gêné, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être là. Le sourire gentil, le sourire débile, le sourire de biais, moi quand je souris, pardon si ça ne se voit pas beaucoup. Le sourire poli, le sourire tranquille, le sourire niais, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être avec vous.
Facilité pour me fondre dans la foule.
Pour les photos d'identité officielles, c'est cool.
À l'enterrement de ma grand-mère, là pour le coup, c'est bon.
Au musée Grévin, je peux faire la statue de François Fillon.
Je l'ai de l'intérieur, à défaut d'avoir l'œil rieur.
Le sourire n'a pas, le sourire béat, le sourire forcé, moi quand je souris, désolé si ça ne se voit pas. Le sourire complice, le sourire sympa, le sourire gêné, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être là. Le sourire gentil, le sourire débile, le sourire de biais, moi quand je souris, pardon si ça ne se voit pas beaucoup. Le sourire poli, le sourire tranquille, le sourire niais, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'être avec vous.
Ça embête tous les gens qui m'approchent. Même si je tourne la tête, j'entends bien les reproches.
Snob, crâneur,
arrogant,
bizarre, prétentieux,
mégalo,
guindé,
hautain,
pédant, fantard,
connard,
pompeux, blaireau.
Je ris à l'intérieur à défaut d'avoir l'air moqueur. Car
les sourires hypocrites, les sourires mythos, les sourires pas francs, des parasites qui viennent vider ton frigo,
sans oublier
les sourires au champ, les sourires McDo, les sourires méchants de tous ces gens qui te plantent un couteau dans le dos. Les sourires avalés, les sourires de façade, les sourires à la télé, moi je vous avoue que ça me laisse froid. Car un sourire ne dit pas tout et non jamais ne me persuade que vous êtes toujours content d'être avec moi. Car un sourire ne dit pas tout et non jamais ne me persuade que vous êtes toujours content d'être avec moi.
Oui, nous sommes toujours contents d'être avec Nadia Fiori qui est venue nous rendre une petite visite pour nous parler de Heartstock. On l'a fait en première partie d'émission. On va rappeler quand même Nadia que le vide-grenier qui devait se tenir sera reporté à une date ultérieure, c'est ça ?
Ouais.
On précisera la date oui, dans les jours qui viennent de toute façon pour une question de sécurité parce que vous avez reçu pas mal de matériel à ranger, enfin à sécuriser tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Heartstock ? Peut-être rappeler aussi que vous cherchez quelqu'un pour un poste en CDD pendant 3 mois et éventuellement le pérenniser derrière.
Ouais, en CDI. Ouais, donc on recherche un technicien polyvalent sur un contrat qui commencerait en avril, mais juin, et effectivement sur un carton, et pérennisable en mi-temps après.
Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué avec Heartstock, c'est aussi un aspect partenariat avec d'autres structures. Oui. Je crois que vous avez travaillé avec la Pistouflerie, me semble.
Oui, un petit peu avec la Pistouflerie, effectivement.
Je me rappelle quand on était avec mon collègue César, on annonçait régulièrement les concerts de la Pistouflerie. Il y avait un cri de guerre. La Pistouflerie!
C'est pas mal du tout, ça. Il faudrait un cri de guerre pour beaucoup de monde, en fait. Ouais. Parce que on a travaillé pas mal avec le foyer rural de la Roque aussi.
Ouais, ouais, ouais.
On a eu des rapprochements assez, assez intéressants. Et
le foyer rural pour le festival qu'ils avaient créé aussi?
Ouais, pour le festival. Et puis avec la MJC et la Maison de l'Avenir de Saint-Gaudens aussi, on s'est pas mal rapprochés. Et puis on a mis en place quelque chose qui est de l'ordre du pérenne. C'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble cette année, les années prochaines. Sur diverses choses.
Une belle équipe là-bas aussi.
Ouais, super équipe. Mais en fait, il y a plein de super équipes là sur ce territoire, vraiment.
Ouais. On est en partenariat aussi avec eux.
Si j'ai un truc à rajouter par rapport à Artstock, c'est ouais. qu'on a, donc sur toute l'année, donc on a travaillé à définir un modèle économique, un projet associatif, une implantation sur le territoire, et de développer vraiment aussi la résidence d'artistes, de pouvoir faire l'accueil. On en avait parlé un petit peu l'an dernier.
Il me semble, ouais.
Et voilà. Et ça
tout type d'artistes.
Alors, tout type d'artistes, beaucoup plus adapté pour tout ce qui est spectacle vivant.
Spectacle de rue, théâtre.
Voilà. Et là, on a trois résidences déjà programmées pour l'année 2019. On est en
D'accord.
2019.
Ouais.
On est très content. Voilà, on a.
Et vous avez la possibilité d'hébergement et tout ça?
Alors. Plus ou moins. Là, ce qu'on peut, si quelqu'un a un camion, enfin nous, on peut fournir la cuisine,
ouais.
les sanitaires, la douche.
D'accord, c'est déjà pas mal.
Voilà, pour le couchage, on a un petit partenariat qui se met en place avec la mairie de Boulogne-sur-Gesse, simplement parce qu'ils ont un camping.
Oui, d'accord.
Voilà.
Ouais. Et puis c'est juste à côté, donc c'est
juste
pratique
à côté,
aussi. Ouais.
Et les artistes qui ont leur propre camion, il y a la place de pouvoir installer le camion. Donc là, on a une résidence de un mois.
D'accord.
Sur une compagnie qui vient construire une scène sonore, hein, projet assez hallucinant. On a un tournage d'un théâtre filmé avec un appel à figurants pour le 1er mai.
Ah.
Hommes, femmes, adultes, tous les bienvenus pour filmer une manifestation dans les couloirs de Artstock. Et vous pouvez venir avec ce que vous voulez.
Des slogans,
des gilets de toutes les couleurs.
Jaune comme ton micro.
Voilà, ou plus flashy si
plus flashy, ouais, ouais, ouais.
Mais voilà, par exemple, on a en septembre, une compagnie de cirque qui vient travailler son spectacle, où là on va essayer en amont de pouvoir faire des rencontres entre les scolaires et les artistes et metteurs en scène.
Sa vie.
Ben ouais, sa vie. Ben, on n'a pas fait une restructuration juste pour le plaisir, non, c'était pour que ça vive, et sa vie.
Et ça va donc se développer, enfin, on croise les doigts, évidemment.
On y travaille, très sérieusement.
Alors d'ailleurs, je suppose qu'il y a un lien entre cette restructuration, le développement de cette association Artstock, et la partie droit culturel. Tu es venu ici aussi pour nous en parler, parce
ouais.
que vous êtes aussi acteur de...
On va dire ça comme ça, oui, effectivement. Dans la partie développement, tout simplement, il fallait
ouais.
que je rencontre les acteurs locaux,
ouais.
à la base.
Mm-hmm.
Et il s'est avéré que le Comminges était très en avance sur d'autres territoires en ce qui concerne les droits culturels.
Alors, qu'est-ce que sont les droits culturels, Nadia ?
Les droits culturels.
Madame la professeure, on vous écoute.
Alors, on va faire simple. Alors, les droits culturels, ça fait partie de la grande famille des droits humains.
Mm-hmm.
Alors, j'ai amené mes petits papiers.
Oui, oui, non, mais je pense que tu maîtrises sans papier, d'ailleurs.
Ouais, mais y a des trucs, c'est quand même pas mal. Enfin,
c'est technique aussi, ouais.
C'est pas tant que c'est technique, c'est que bon, il y a des gens qui ont trouvé les moyens de synthétiser les choses. En fait, c'est tout simplement...
Répète.
Non, tout ça.
Elle a fait du théâtre. Hein.
Ah bon? Je me souviens plus. Ok, alors la définition générale, c'est l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité.
Mm-hmm.
Là, on est dans ce qu'on appelle l'assertion large du mot culturel. Les droits culturels, c'est de faire respecter ça, ces ensembles de références.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est social, culturel, politique, citoyen, enfin, sociétal.
Ça
englobe presque. C'est la vie, quoi.
En fait, ça englobe un petit peu tout ce qui pourrait être de l'ordre de la bonne intelligence pour vivre ensemble.
Ouais.
Alors, je ne veux pas faire du Franck Lepage en disant ça, parce que derrière ces mots. Et ça a un vrai sens.
Ouais.
Voilà. La bonne intelligence, c'est-à-dire d'être en respect, en reconnaissance, en considération de l'autre, de soi, pour vivre ensemble, c'est-à-dire que les différences ne soient pas clivantes,
ouais.
mais soient support ou terrain de partage, d'échange, ou du moins de cohabitation.
Le spectre est large.
Super
très
large.
Très large.
Il y a une dimension, bien sûr, éthique, philosophique, politique, avec des applications... sociale, sociétale, très large. Et là où c'est vraiment très intéressant, à mon sens,
ouais.
C'est que, on va faire vite fait un petit peu d'histoire, mais je vais pas vous saouler.
Écoute bien, Chloé.
Depuis Pompidou, on va dire les arts, le champ de l'art a été ramené à la culture. Et toutes les politiques publiques culturelles étaient essentiellement des politiques de valorisation, de diffusion de l'art. Mmh. Derrière les mots, il y a des idées. Donc des pensées qui peuvent être développées. Et ça fait des années que la pensée, le vocabulaire et l'infrastructure administrative et fonctionnelle de là où nous vivons associent la culture à l'art, comme un synonyme. Mmh. Sauf que l'art participe de la culture, mais le champ culturel est beaucoup plus large
évidemment. Oui.
La cuisine, la structure familiale,
associatif.
La façon aussi de participer à une rencontre, ça englobe tout ça. C'est super difficile parce que je m'auto-censure, parce que si tu me balances sur les droits culturels,
il y a peut-être un maître mot, c'est échange aussi.
Alors, il y a échange et participation, en fait. Il y a l'échange, bien sûr, mais avant l'échange, il faut qu'il y ait une identification, il faut que les gens se reconnaissent aussi. Mmh. Moi, j'ai envie de parler de légitimité avant d'échange.
Ouais.
C'est de trouver les moyens que chacun se sente légitime en tant que réel acteur de sa vie, de la vie de l'autre et du vivre ensemble.
Sur un territoire bien donné, d'ailleurs.
Alors, en l'occurrence, la question des droits culturels, ça fait partie de la grande famille des droits universels.
Universels, oui. Des droits humains.
Voilà, des droits humains. Donc là, on est dans une assertion super large. Mmh. Ce qui est intéressant en commun, c'est qu'il y a un an et demi de ça, parce que moi, avec Arstock, j'ai intégré cette commission. J'ai été invité à participer à une des réunions de cette commission.
Alors explique. Il y a des commissions qui sont créées. Commission culture et territoire, c'est ça?
Alors c'est une commission culture et territoire qui s'est créée donc 6 mois avant que je l'intègre, à peu près 6 mois, un petit peu plus. Mm-hmm. Et l'idée qui était là, c'est que voilà, depuis 2015. Vous savez peut-être ou pas, mais il y a ce qu'on appelle la loi NOTRe, c'est une nouvelle organisation territoriale de la République, qui a eu entre autres comme conséquence le fait de redessiner les régions et de dispatcher les compétences des collectivités territoriales. Dans cette loi NOTRe, il y a eu un amendement qui a intégré les droits culturels au droit français, rattaché du coup à la compétence culture pour les collectivités territoriales. Donc depuis 2015, les droits culturels sont inscrits dans le droit français. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est une avancée.
Oui. Non, mais clairement, c'est une avancée. Après, reste déjà à la définir et à pouvoir, définir ce concept-là et puis son application concrète et faire que ce soit quelque chose de vivant. Parce que politiquement, socialement, ça peut être super intéressant si on les applique. Ouais, ouais. Et au-delà de si on les applique, c'est que les collectivités sont en devoir de les appliquer de par la loi. Mm-hmm. Donc, l'idée de cette commission, c'était de rassembler des acteurs pour pouvoir réfléchir ensemble, déjà à qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion-là de droit culturel, sur quoi on est d'accord, et comment proposer un chantier à action.
D'accord.
Proposer un chantier à action, ça implique les acteurs du territoire, tous les acteurs du territoire. Les citoyens, les structures associatives, les structures professionnelles et les collectivités, élus, techniciens.
Et les élus, tous les techniciens. Oui.
Voilà. Donc au départ, de par, on va dire, même la structuration même du mot culture, au départ, c'était essentiellement des acteurs du champ culturel artistique.
Ouais.
Assez rapidement, parce qu'il y a quand même une bonne intelligence dans cette commission-là, mais il faut ouvrir. Il faut ouvrir à d'autres types d'acteurs.
Il faut communiquer, voilà, c'est ça.
Il faut communiquer, il faut ouvrir. Donc en fait, chacun voilà, est allé, quand il rencontrait quelqu'un, moi par exemple, c'est la directrice de la MJC de Saint-Gaudens, Julie Talbot, quand je l'ai rencontrée pour Arstock, elle m'a dit, attends...
Julie, si tu nous entends, bonjour.
Bonjour Julie. qui m'a dit, attends, il y a un truc qui se passe, les droits culturels, je pense que ça pourrait être intéressant que tu y participes, viens voir ce qui s'y passe. Ah, effectivement, merci pour l'invitation, c'est passionnant. Donc on a travaillé, on s'est réunis à peu près pendant plus d'un an, une fois par mois, Et en fait, cette commission culture et territoire, elle s'inscrit sur le territoire du PETR Pyrénées-Comminges avec les trois communautés de communes qui la composent. Donc il y a la 5C, il y a Cagir, Caronne, Salat et Pyrénées, celle qui est au sud.
Désolée. Je ne connais pas le nom. À peu près, on voit la zone de toute façon. Hein.
Alors c'est Pyrénées-Haut-Garonne.
Ah d'accord.
Donc voilà, et en fait il y avait une réunion une fois par mois et on tournait de Comcom à Comcom et voilà.
Ouais, dans des lieux différents, ouais, pour rencontrer des gens différents aussi.
Pour rencontrer des gens différents et pour définir, voilà, on parle d'un chantier action, concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Mm-hmm. Et on en est arrivé à se dire, bon ben alors on va faire un chantier action, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, c'est pas.
Est-ce que tu peux me définir ce qu'est le chantier action?
Justement. Ouais. Je vais d'abord définir ce qu'on n'a pas voulu faire.
Ouais.
Pour arriver à ce qu'on en a fait.
c'est très intelligent. C'est incroyable.
Sur les droits culturels, il y a beaucoup de travaux qui se font. Beaucoup de travaux universitaires, beaucoup de travaux de recherche. Et on est énormément dans le champ théorique.
D'accord.
Aujourd'hui.
Mmh.
De par la nature même de ce concept. On s'est dit, bon, il va falloir arrêter de se rassembler pour parler, de se regarder, parler et à se dire, c'est ça, c'est bien, on comprend. Maintenant, concrètement, un chantier action qui dit chantier et qui dit action, ça part du terrain.
Il faut agir.
Et puis, l'intérêt de ces droits culturels, c'est d'en faire des réalités pour proposer des outils concrets d'application effective de ces droits. Donc, on s'est dit, voilà, on va faire, on va passer par la pratique. Donc, on va prendre des projets. Et on va les observer, on va les passer au crible hein, sur chacune de ces phases de réflexion, de construction, de réalisation.
Une question, tu dis on va les passer au crible, mais qui les passe au crible ?
Justement, ça participe du chantier action.
Ah.
Parce que la question se pose, qui va pouvoir observer ça ?
Ouais.
Qui, dans le respect des droits culturels, donc qui implique le fait... Un des corollaires des droits culturels, c'est qu'à un moment, le principe pyramidal et hiérarchique saute.
Mm-hmm.
Là, c'est... Plongez-vous dans les droits culturels, ça change tout le logiciel, assez passionnant. Mais effectivement, qui a la légitimité d'observer et de poser un regard critique ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un regard critique ? Donc il y a eu tout ça à redéfinir. Donc on a décidé, voilà, on va prendre des projets.
Ouais.
Je reviendrai après sur les différents projets, comment ils ont été choisis.
On...
Voilà, la structure, c'est des projets, un observatoire, et le chantier action, c'est le travail de ces projets, passer au crible, à l'analyse, on va dire, disséquer, par le prisme, à travers le prisme des droits culturels, pour pouvoir dégager des éléments super concrets, super pragmatiques sur qu'est-ce que l'application concrète des droits culturels dans la mise en place de projets.
Et l'observatoire, ce sont des gens.
Oui. Et juste pour finir, après on reviendra sur chaque. Oui. Et l'idée, au bout de 2 ans, c'est ce travail d'observation, de réalisation et d'échange entre ces deux champs, c'est de produire un document. On s'est dit sous la forme de charte.
D'accord.
À destination des collectivités territoriales qui sont en charge de la compétence culturelle et donc du respect des droits culturels, pour leur proposer un outil de lecture, d'appréciation et d'évaluation des projets dans le respect des droits culturels.
C'est une charte qui pourra s'appliquer à tous les projets ? C'est ce que vous essayez de faire ?
À tous les projets qui pourraient s'inscrire dans
le
cadre des droits culturels.
Oui, bah évidemment, dans ce cadre-là. Oui.
Et dans ce cadre-là.
Oui.
Oui. Alors, les projets.
Alors, attends, on va faire une pause musicale avant les projets. Laisse-moi respirer un peu trop d'informations comme ça.
Comme ça? Non, rassure-moi.
Non, c'est très clair, ne t'inquiète pas. Mais ça fait du bien d'écouter un petit peu de musique de temps en temps. Là, on va changer de style, hein.
Signs, speed limits, nobody's gonna
Monsieur Manu Lanvin qui revisite un des grands classiques de AC/DC, AC/DC pour les anglophones. Nous sommes toujours avec Nadia Fiori. On est en train d'évoquer les droits culturels, d'évoquer aussi des chantiers qui ont déjà démarré, non? Je suppose, les projets.
Oui.
Les chantiers actions.
Oui.
C'est déjà démarré?
Oui.
Depuis un petit moment déjà?
Rien que le fait d'avoir discuté de la façon dont on allait les mener et de ce qu'on allait faire, ça a déjà commencé.
Alors, concrètement, on peut parler de ces différents chantiers, projets?
Ouais.
Ça sera peut-être plus clair, peut-être pour les gens qui nous écoutent.
Plus concret.
Plus concret, en tout cas, ça c'est sûr.
Plus concret. Alors, il y a quatre projets qui ont... on va dire, été retenu pour se faire passer à la moulinette.
ça a été facile d'accepter ça, des gens? Si on participe déjà au départ, si on est...
Oui.
C'est automatique même.
En fait, dans la commission, on est plusieurs. Et au-delà des individus que nous sommes, on a des structures, on fait partie de structures avec des projets. Et a priori, on était partant sur les droits culturels. Donc la première chose qu'il faut faire pour appliquer un truc, c'est il faut d'abord se changer soi-même le logiciel et jouer le jeu.
Et jouer le jeu, ouais.
Donc a priori, tout le monde était plutôt partant. Et en fait, tous ensemble, on s'est mis d'accord sur quelques critères de projets qui seraient pertinents d'étudier.
Ouais.
Et les critères, c'était que ce soit porté par plusieurs structures, si possible d'activités différentes. Du champ artistique, du champ de l'éducation populaire, du champ du social, voilà.
Ça peut être l'économie solidaire aussi. Enfin, je sais pas.
Après, l'économie solidaire, c'est une forme de structuration de personnalité, de personnes juridiques.
Ouais. Voilà. Aussi.
Mais en fait, il y a énormément d'acteurs de l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a énormément d'associations.
Exactement.
Donc voilà. Donc les quatre projets qui avaient été retenus, il y en a quatre qui ont été retenus, il y en a quatre qui ont été proposés. On n'a même pas fait de discrimination, mais c'est en ça où les choix étaient faciles. Donc il y en a un qui est porté par plusieurs structures à chaque fois. Donc celui-là, c'est la Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens et une compagnie de théâtre.
D'accord.
Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire des itinérances en même temps de construction de spectacles et de représentations, mais en se déplaçant sur le territoire et de pouvoir aller en fait à la rencontre du public scolaire. Et là, ça se pose la question de quel public ou quoi qu'est-ce. Mais ça, c'est le travail de l'Observatoire.
D'accord, ok.
Mais ce projet-là, voilà, déjà, la façon dont il va être construit, la façon dont il va être diffusé et comment les publics vont pouvoir participer ou pas, enfin voilà. Ensuite, le deuxième, quand je dis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est parce que je ne peux pas en parler les quatre en même temps.
Oui.
Il y a l'idée de faire des paniers culturels. Donc là, c'est la Maison de l'Avenir.
Saint-Gaudens,
La Fidèle, qui est une
structure aussi à Saint-Gaudens.
Structure d'insertion par le travail.
Qu'on a reçu ici.
Voilà, qui ont des jardins de Comminges. On va les retrouver partout. La Maison de l'Avenir.
La Maison de l'Avenir, donc, c'est à Saint-Gaudens aussi.
Voilà. Ouais. Donc sur l'idée en fait de faire les parce que les jardins de Comminges font des paniers principe à MAP.
Oui.
L'idée c'était de faire des paniers culturels. Et dans le panier en lui-même, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans un panier qui est de l'ordre du champ culturel? Et comment on va identifier ce dont les gens ont envie? Comment faire qu'il soit accessible à tous, à chacun, distribué, tout ça.
Ah, l'idée est originale, j'aime bien.
C'est plutôt pas mal. Ouais. Il y a aussi un autre projet qui est porté donc par les pronomades, par également La Fidèle un collège, me semble-t-il, un professeur qui est dans un collège de Saint-Gaudens. Et là, l'idée, en fait, je parle d'idée, parce que pareil, c'est en cours d'élaboration, tout ça, c'est de pouvoir faire d'aménager un sentier artistique, paysager.
Un côté écologique aussi? Complètement, peut-être. Oui. Bah, nature, les... enfin, oui.
Il y a la sensibilisation à l'environnement, à l'art, le travail de réalisation de ce parcours-là, et comment après, ce qui va être vécu par le public du territoire, entretenu, quoi, qu'est-ce, enfin, voilà, toutes ces questions-là se posent. Et il y a un autre projet.
Le quatrième.
Auquel Artstock participe. Donc là, c'est en association aussi avec la FIDEL. le foyer rural de la Roque, la pistouflerie et un comédien qui s'appelle Gaëtan Pasquale qui est dans le coin. Et nous, l'idée qu'on a, c'est de constituer une régie mutualisée pour l'ensemble des acteurs du territoire. Et quand je parle de régie, c'est des scènes, des barnums, pourquoi pas du matériel technique.
Ouais, du son.
Pourquoi
audio, éclairage aussi peut-être.
Voilà, pourquoi pas. Donc construire, entretenir et mettre en place un système de mutualisation pour que quiconque organise un événement, qu'il soit un festival, un repas de chasseurs,
une exposition, je ne sais pas, il y a plein de choses.
Ou un marché vegan. Mais que chacun puisse accéder en fait à du matériel sans avoir 1200 euros de chèque de caution à mettre.
Et là, vous partiriez quoi sur un principe de location ou
Mutualisation, location, partenariat. On réfléchit aussi à quelle structure va porter ça, les modalités, tout ça. Voilà. Donc ces quatre projets vont être. Passer au crible régulièrement par cet observatoire. Dans cet observatoire, il y a qui ? Il y a les membres de la commission culture et territoire, dont les porteurs de projets font partie, dont les instances publiques font partie, les collectivités, le département, la région, l'État, à travers Madame la sous-préfète qui est super impliquée dans cette démarche-là. Et sur 2 ans...
Oui, mais j'allais te poser la question du temps.
Sur 2 ans, sur 2 ans, voilà... il va y avoir ce travail-là qui va être animé. Enfin, voilà, il va y avoir l'animation de ce réseau-là, de l'organisation de ces commissions. Il va falloir quelqu'un qui soit à même de pouvoir observer objectivement et dégager des éléments concrets sur ces échanges, sur ces réunions, sur les fonctionnements, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour sortir cette charte d'ici 2 ans.
Les observations vont se faire comment ? Les personnes vont être amenées à rendre visite aux différentes structures qui participent à ces projets, comme ça ?
Alors, les différentes modalités, elles sont... Tout n'est pas défini, parce que par principe sur les droits culturels, c'est là on va essayer. On va essayer, là on commence, voilà, on se voit régulièrement, les porteurs de projets font partie de la commission, donc voilà, ensuite quand la commission se réunit, donc maintenant quand l'observatoire va se réunir, il va falloir animer cette réunion-là, l'organiser, inviter tous les différents acteurs qui seraient intéressés, pourquoi pas des fois faire intervenir des personnes d'autres territoires ou d'autres champs pour avoir de nouvelles grilles de lecture, des retours d'expérience.
Et les observations se font régulièrement, c'est-à-dire
une fois par mois, généralement, il y a une réunion.
Donc le projet évolue par rapport à ces observations.
Tout le temps, en fait, il est vivant. Ouais. Alors là, il y a tout un travail qui avait été fait quand même pour pouvoir intégrer justement les collectivités. Parce que quand je disais que c'est une des rares expériences sur le territoire national ou qui part du terrain, là où c'est aussi intéressant, c'est que les collectivités, les pouvoirs publics sont impliqués en fait déjà. Et là, par exemple, c'est pas un exemple, c'est que on s'est dit bon, peut-être que faudrait un porteur de ce projet-là, tout simplement. Le pays semblait la structure la plus pertinente par rapport au territoire. Voilà, il y a des démarches qui ont été faites. On a rencontré les différentes communautés de communes, les bureaux, pour leur présenter la démarche. De toute façon, ils étaient déjà partie prenante dans les commissions à travers soit des élus, soit des techniciens qui étaient présents à chaque fois. Pour dégager, en fait, enfin, demander au pays de dégager des fonds pour créer un poste pour pouvoir animer ce travail-là pendant 2 ans sur l'ensemble du territoire. Enfin voilà, ils sont vraiment partie prenante au même titre qu'un bénévole d'une association. Et ça, c'est très intéressant. Ça, pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal.
Est-ce qu'il y a des passerelles entre chaque projet ? Est-ce que ça peut arriver, quoi ? Tout est ouvert, en fait.
Bah, tout est ouvert. Là, pour le moment, les passerelles... Bon, là, il y a la FIDEL qui est une passerelle.
Puisqu'elle participe à la plupart des projets.
Elle participe à la plupart des projets. Après, voilà... C'est pas que tout est possible, c'est que rien n'est figé, en fait. On est sur quelque chose, voilà, qui est en cours de construction, évolutif, et on utilise de nouveaux critères, mais même en termes de concertation interne, se poser la question, mais comment les bénévoles, en fait, ça pose ces questions-là, le bénévole, comment est-ce qu'on l'implique? Est-ce qu'on y vient, on lui dit, t'as cette mission-là, cet endroit-là, ou en fait, on l'implique dès en amont, dans l'organisation, dans ce qu'il va venir trouver? Ça repose toutes ces questions-là, donc c'est, y a rien qui est fermé, rien qui est figé.
Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas un cahier de charge, ou alors il va se mettre en place au fur et à mesure.
Bah, il se définit en autogestion, c'est là où c'est intéressant.
Ah ouais, c'est vrai, ouais.
Bah, ça implique ça, les droits culturels. Ça implique, l'autodétermination des cadres qui vont être les nôtres, parce que c'est ceux-là qui vont être les cadres communs, les cadres du commun.
C'est quoi le souhait? C'est que vous deveniez une vitrine au bout de 2 ans, si tous ces projets aboutissent, ça peut aider d'autres zones géographiques, d'autres régions, d'autres structures.
Oui, en fait, il y a pas mal de territoires qui travaillent sur les droits culturels. Donc, on sera un des acteurs qui proposeront quelque chose, en fait. L'idée, c'est que si on sort une charte et que les collectivités territoriales s'en saisissent et l'utilisent, on pourra même dire que le commun est vraiment dans l'innovation, parce que c'est très avancé. Dans 2 ans, on y arrive. Oui, en termes de droit culturel, le commun deviendra une des références, très clairement.
Il y a un vrai côté engagement citoyen. On est complètement dedans, quoi, en fait.
Citoyen, sociétal, politique, éthique, philosophique.
Mais ça, on en parle. Peut-être qu'on n'a pas en tête. Ça représente un travail énorme, quand même. Il me semble. Évidemment, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, mais.
En fait, les projets, le truc aussi, c'est que les projets, ils auraient existé avec ou sans la question des droits culturels. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. C'est-à-dire que pour parler juste de la régie, nous, ça fait un an qu'on en parlait avec Robin du Foyer Rural et Christophe de la Pistouflerie. C'est que, se pose la question quand on organise un événement, comment on fait si on n'a pas de scène, ou s'il y a un autre festival qui s'organise dans le coin, que toutes les scènes de toutes les activités, comment on fait si on n'a pas les moyens pour louer du matos technique? Comment on fait pour organiser un événement? Nous, on s'est dit, on n'a qu'à faire ça. Le seul truc qui va changer, c'est qu'on va être vachement plus attentif sur la façon qu'on va avoir de construire le projet, peut-être moins se reposer sur nos habitudes. Mais nous, l'effort que ça va nous fournir, c'est de se forcer à réfléchir autrement.
Et ces projets-là permettent aussi, il me semble, de pérenniser ou de développer chaque structure. Ensemble, il y a ça aussi, non?
Ça va amener, à quelque chose de l'ordre du vivre ensemble.
De vivre ensemble, oui.
De toute façon, dans une zone comme ici, ou comme dans beaucoup d'autres, pour moi, ça change pas la façon de travailler, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne tout seul, ni dans la nature, ni dans la nature humaine, en fait. Donc, ça revient juste à une simple évidence, on va vachement plus loin et mieux quand on est à plusieurs, parce qu'il y a toujours plus de bonnes idées dans 5 têtes que dans une seule, même très bien faite. En ce sens-là, puis ça, je pense que ça peut que participer à ce qui est déjà présent sur le territoire. J'en avais parlé l'an dernier, parce que moi j'ai découvert le commun il y a un an et demi, mais il y a une diversité d'acteurs quand même assez intéressant.
Notre région Grand Sud-Ouest, pas que le Comminges, parce que le Gers est à peu près équivalent.
Cette zone-là.
C'est une zone, mais l'Ariège aussi.
Il y a une vitalité de la société civile qui est quand même très présente. Économiquement, on parle de zones rurales défavorisées ou à revitaliser, parce qu'effectivement, avec les curseurs dits économie et démographie et tout ça, on peut voir qu'il y a des soucis de désertification médicale, désertification économique, trouver des logements, tout ça, cette difficulté, elle est réelle. Par contre, il y a un vivier.
Il y a de la vie.
Humain, super intéressant, et par principe de vie, ça communique. Ça faut faire monter la mayonnaise, et cette mayonnaise a envie de monter. Et c'est pas pour rien que cette commission, elle a émergé sur ce territoire-là. Ouais. Parce que ça répond aussi à quelque chose qui est présent, et nécessaire, et présent. Et c'est là où c'est quand même chouette, parce que des fois c'est nécessaire et c'est pas présent. Des fois c'est présent, mais.
C'est pas vraiment nécessaire.
C'est pas forcément. Là, il y a une bonne adéquation, il y a une bonne temporalité, et il y a des belles volontés, Enfin, vraiment, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, Il y a beaucoup de monde sur cette commission-là, et chacun avec cette réelle volonté de j'allais dire, je vais appeler peut-être un gros mot pour certains, mais de servir en fait cette notion de droit culturel qui porte effectivement des réponses potentielles à des problématiques environnementales, sociétales, politiques, éthiques. Enfin, on n'est pas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui,
ouais.
avec tous les problèmes, les fractions, les crises qu'il y a, l'expression de ces problèmes-là. On n'y est pas pour rien. Il y a peut-être des éléments de réponse de la simplicité du vivre ensemble, en
tout
fait.
Simplement, oui.
Et pourquoi pas? Donc ça c'est passionnant.
Et alors, vous partez du principe de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement aussi. Il y a une organisation quand même.
Il y a une organisation, on ne part pas avec une prédétermination de ce que ça va être, parce que par principe, on va exclure peut-être des très bonnes idées qu'on n'aura pas eues.
Ouais.
Ça change le logiciel, ça change la façon de... En fait, on rentre dans une territorialité au sens, pas grégaire, mais au sens d'une réalité de terrain. Donc une temporalité qui va avec l'espace et avec les gens. Et voilà, s'il y a une très bonne idée qui arrive avec... il va falloir que nous, on se remette en question pour pouvoir l'intégrer. Et là, la démarche aussi, c'est de pouvoir signaler, inviter... communiquer, je n'aime pas ce terme-là, parce qu'il a pris une connotation un petit peu problématique.
Le fait de parler à la radio, on échange.
Mais il y a des acteurs, des gens, des énergies qui sont en fait porteurs, acteurs effectifs de droits culturels depuis des années et qui se sentent pas concernés parce que derrière le mot culture, on pensait le mot art.
Ouais.
Mais pas que. Donc là aussi, l'idée, c'est d'ouvrir largement ce spectre-là.
Ah, exactement, ouais.
Je sais par exemple que le 28 mars à 10h, il y a une réunion. Alors, a priori, ça se passera dans la communauté de communes de Cagères-Garonne-Salat. Pour les personnes qui sont intéressées par cette démarche-là, je suis totalement confuse. Et là, j'en profite pour vous présenter mes excuses à mes collègues de la commission. J'ai pas le lieu de la réunion.
Mais tu me le transmettras.
Je le ferai passer. Vous pouvez joindre aussi via le contact de Artstock si vous voulez le lieu exact. Mm-hmm. Vous pouvez contacter les Pronomades. Vous pouvez contacter la MJC de Saint-Gaudens. Vous pouvez contacter
Fidèle, la maison de la
vie. la Pistouflerie, le foyer rural de la Roque, pour pouvoir avoir le lieu. De cette réunion. L'idée, en fait, c'est de pouvoir l'ouvrir. Là, moi, je pense, on est là pour en parler parce que aussi, moi, je t'en avais parlé parce que là, en tant qu'émission et radio locale, Radio Coteau est un acteur, en fait, un média des droits culturels, l'association Vivre en commun.
Oui, qui font une émission régulièrement ici
entre
aussi.
Entre autres, et je connais pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire, sur les questions environnementales, sur les questions d'économie circulaire, sur les questions d'éducation populaire, parce que tout a été sectorisé. Mmh. On vit dans un monde où tout est catégorisé, sauf que tout est en interaction.
Ouais.
Et les droits culturels, ça permet de revenir
de travailler ensemble,
commun,
ouais, tout simplement.
Voilà, arrête le sectoriel pour revenir au sens commun. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ces droits culturels-là, dans cette envie d'y participer, voilà. Quelle est la date déjà du 28 mars? À 10h, c'est vers Cagères-Garonne-Salat. Et je t'envoie un mail dans l'après-midi pour que...
Je te donnerai le lieu exact, oui. Et de toute façon, on peut aller sur le site d'Artstock ou
sur le site d'Artstock, il n'y a pas l'info. Mais sur contact Artstock, m'envoyer un mail.
Ou sur la Pistouflerie, peut-être.
Sur la Pistouflerie, la MJC, la Maison de l'Avenir, la Fidèle, les Pronomades, voilà.
On va rester en contact de toute façon pour suivre l'évolution, hein, parce que ce sont des projets, pas un projet, ce sont des projets très 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 intéressants, et on est là aussi en tant que radio pour les observer.
Bon, on peut peut-être se donner des rendez-vous.
Des rendez-vous, voilà, ouais.
Avec des interlocuteurs différents.
Exactement.
Tournent, voilà.
Ça serait carrément très intéressant s'ils sont évidemment d'accord.
Ah oui, ils sont partants. Moi, j'ai envoyé un petit mot en disant que je serais là aujourd'hui pour parler des droits culturels et savoir si quelqu'un voulait venir. On m'a dit, c'est mon tiers, vas-y. La prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre.
Et ça nous permettra de suivre aussi, justement, l'évolution et à nos auditeurs également.
Ouais.
Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette zone-là, parce que si on est limitrophe, on peut pas participer ou ça peut être transversal?
Non, ça peut être transversal dans, ouais, le projet d'itinérance artistique. C'est une compagnie qui est dans le Volvestre.
Ah, ben voilà, donc on
donc
peut...
ça va, c'est... Alors, il faut définir un territoire et on s'est arrêté sur le PETR parce que c'était, voilà, la structuration, on va dire, en même temps départementale, régionale, politique, parce qu'ils sont en train de mettre un schéma de cohérence territoriale. Bon, voilà, c'était le plus pertinent. Après, dans le principe des trois culturels, faut pas être discriminant. Enfin, ouais, on va dire, entre ici et Arstock, c'est quoi? C'est 10 kilomètres.
10 kilomètres, oui, oui.
C'est le même territoire. Enfin, voilà.
Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi.
Faut être cohérent.
Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Redonne l'adresse de ces contacts, Arstock.
Carrément sur ma boîte, sur la mienne de boîte mail. Donc, c'est, Nadia, N-A-D-I-A, point Fiori, F-I-O-R-I, @ Arstock, A-R-T-S-T-O-C-K, -6, asso.fr.
Super, bah sublime. Merci beaucoup, Nadia,
avec
encore une
grand
fois.
Plaisir.
On va se... Merci, Chloé. Chloé, tu es submergée d'informations, non, aujourd'hui?
Ah oui, carrément.
Un petit peu. Mais on fera le point après tous les deux, ne t'inquiète pas. Alors, on se quitte, donc j'ai dit, avec les ogres de Barbac, bien sûr.
Oui.
À bientôt, au revoir.
Ils reprendront les chemins de la guerre avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie. Imposeront paradoxes stupides d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices, à l'effigie d'encore d'autres idoles. Rebrûleront des livres, des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais s'ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse du sceau des sceaux qui ont toujours raison. Attacheront les femmes à délaisse à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de coups de gens d'autres couleurs. Exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas. Accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées. Puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fratricide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des jets d'acide. Ils se redéfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, pendront les couleurs pour les enfermer sur des drapeaux. Et ils s'enfonceront dans l'ignorance et la fière d'eux. Ils s'entretueront, nous débarrasseront de leur présence, ces pauvres cons. Puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi, je garderai ma haine.